Eh bien, merci pour les plus courageux et courageuses d'être restés après cet après-midi intense de conférences et de rencontres. Donc, le temps qui va se déployer maintenant, c'est un temps consacré au champ électromagnétique et à l'élevage. François Dufour, alors j'improvise les présentations, donc François, et tu me corriges si je me trompe, cofondateur d'Attac, ancien porte-parole national de la Confédération paysanne, et historique de la lutte des effets des champs électromagnétiques sur les animaux d'élevage, mais ils développeront et tout le monde développera plus avant. Nathalie Barbe, journaliste, spécialiste de ces questions de champs électromagnétiques, autrice d'un très bon documentaire qui s'appelle de France 3, Agriculteurs sous tension, l'omerta française, c'est ça. Et Jean-Claude Olivier, si vous étiez là à 14h, un des fondateurs de Paysans Travailleurs et de la Confédération Paysanne. J'ai écorché le département d'origine. De la Sarthe, voilà. Et historique aussi de cette lutte des champs électromagnétiques et des animaux d'élevage. Je vais rapidement faire une rapide intro pour expliquer pourquoi on débat de ça dans un festival dédié aux luttes contre les centrales sur terres agricoles et forestières. C'est qu'en fait, dès le positionnement qu'on avait pris avec la Conf nationale et avec Laurence Marandola, qui était déjà secrétaire nationale à l'époque, il y avait ces débats qui existaient au national, au comité national. Quels sont les effets des centrales photovoltaïques sur les animaux d'élevage? Puisque bien sûr, cette problématique existe depuis les années 90. Donc voilà, il y avait ce questionnement-là. Alors, qu'est-ce qu'on en sait? Eh bien, peu de choses et beaucoup à la fois. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ne sont pas encore levées. De par mon travail journalistique précédent auprès de la rédaction de L'Empaillé, j'avais obtenu un rapport d'une centrale faite par IEL en Mayenne sur un rapport d'expertise réalisé par le CRIREM. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre de recherche indépendant. Et je mange un « i ». D'informations sur le rayonnement électromagnétique. Donc c'est un centre connu dont les expertises sont reconnues par les tribunaux et qui avait mesuré du coup les effets des champs électromagnétiques sur les centrales. Et en fait, on a des mesures qui sont très importantes au niveau des onduleurs et au niveau des câblages qui sont enterrés sous les centrales. Et bien sûr, au niveau des postes de transformation qui sont dans les zones clôturées, mais aussi des postes de livraison. Ces valeurs sont de plusieurs micro-Tesla, c'est-à-dire sont parfois de 3 à 4 micro-Tesla. Micro-Tesla, les collègues développeront, c'est une des façons de mesurer le champ magnétique, de l'électricité, des basses fréquences. Et alors on se dit, bon, il y a ça comme mesure, mais quels sont du coup les effets sur les animaux? Eh bien, pour essayer de répondre à cette question, bien qu'imparfaitement, on se base du côté de la Cordo sur des rapports de l'ANSES, donc l'Agence sanitaire française, qui montrent que pour les humains, il y a des effets à long terme de cancérogénèse, de leucémie, des effets des basses fréquences à partir de niveau d'émission de 0,2 à 0,4 microtesla. On a ça. Et au point qu'il y ait des directives pour ne pas construire des EHPAD, des crèches à telle distance de lignes moyennes ou haute tension, etc. Donc c'est rentré dans les normes. Et la question qui se pose, bon, on a ça pour les humains, mais qu'en est-il des animaux? Eh bien, en fait, on se base de notre côté sur un rapport parlementaire du député Philippe Bollot, il a fait ça pour l'Office parlementaire des choix scientifiques, qui montre, pour résumer rapidement, que les animaux sont beaucoup plus sensibles que les humains et les vaches sont différemment sensibles des autres animaux. Donc à partir du moment où on sait que sous les centrales photovoltaïques, les onduleurs, les câbles enterrés émettent 1, 2, 3, voire 4, parfois beaucoup plus de microtesla, et à partir du moment où on sait que les animaux sont plus sensibles que les humains, on peut supposer que le fameux critère de l'amélioration du bien-être animal que doit apporter théoriquement une centrale agrivoltaïque, on peut le mettre en doute. En tout cas, on peut le questionner. Ce qui nous manque encore actuellement, c'est forcément une étude in situ sur un troupeau qui est suivi au long cours et où on voit tous les effets sur les animaux qui sont référencés dans la littérature scientifique. Voilà pourquoi on en est arrivé à vouloir connaître plus avant cette problématique dont les collègues vont vous parler maintenant. Voilà, merci. Et je passe la parole à Nathalie.
Merci Loïc, merci à toutes et à tous d'être là. On a eu un après-midi très très dense et très très riche. Juste pour rebondir sur les études, hier soir après la diffusion du documentaire, une personne a demandé justement s'il y avait des études menées sur les animaux sous les panneaux photovoltaïques. Dans l'Orne, il y a un dispositif expérimental chez un éleveur laitier qui est menée avec le promoteur et qui est menée aussi avec l'INRAE, l'Institut National de Recherche Agronomique. Donc le critère des courants parasites électriques et donc des effets des champs électromagnétiques sera étudié. C'est un projet qui doit être mené sur 2-3 années. Je crois qu'il y a une autre expérience dans le centre. Quoi qu'il en soit, tous ces ouvrages électriques sont développés sans études au préalable sur le vivant. C'était pareil pour l'éolien, c'était pareil pour les lignes de tension. En fait, il a fallu le préjudice dans les fermes pour faire émerger cette question de l'exposition du vivant à l'électricité. Et c'est ces témoignages-là qu'on va vous présenter. François va vous parler de l'historique, parce que c'est un combat qui a démarré dans les années 90 avec le déploiement des lignes de tension. Jean-Claude, je l'ai rencontré en 2018 quand j'ai commencé à travailler sur ce dossier-là parce qu'il venait de créer un collectif pour soutenir des éleveurs qui avaient, eux, des problèmes plutôt avec les radiofréquences, avec les antennes relais. Mais au fur et à mesure de ce travail, en fait, et des réunions publiques, on a récolté énormément de témoignages d'éleveurs qui étaient impactés par de l'éolien, par de photovoltaïque. En fait, déjà, pour évacuer la complexité technique de ce dossier-là, il faut se dire que ce n'est pas la source qui pose le souci. Ce n'est pas le nucléaire, ce n'est pas le photovoltaïque, ce n'est pas l'éolien ou l'hydraulique. C'est la circulation de l'électricité dans les câbles. C'est là-dessus qu'on travaille sur la recherche et sur l'exposition des animaux. En circulant dans les câbles, l'électricité génère un champ électrique et un champ magnétique. Pour simplifier, les expertises qui ont été menées dans les années 90 via le ministère de l'Agriculture ont simplifié la définition. Les animaux d'élevage sont victimes des effets indirects des champs électromagnétiques qu'on appelle des courants parasites et vagabonds. Donc ce sont des courants qui se promènent sur du matériel conducteur, les cornadis, les barrières, les abreuvoirs métalliques, ou des courants vagabonds qu'on retrouve dans le sol. Le courant est feignant, il cherche le chemin le plus simple pour retourner à la source. Sur son passage, il peut retrouver une vache. Alors je parle de la vache parce que c'est l'animal qui a concentré le plus d'études scientifiques du fait qu'elles aient été menées aux États-Unis et un peu en Nouvelle-Zélande. Et la puissance de l'industrie laitière aux États-Unis a boosté la recherche. Et on a hérité de cette recherche en France sur les niveaux d'exposition. Donc on va bien parler de courants parasites et vagabonds, effet indirect des champs électromagnétiques. Ça, c'était vraiment pour écarter le volet un peu technique. On soit d'accord sur le vocabulaire. François, je te passe la main pour le volet historique de ce combat.
Merci Nathalie. Oui, alors effectivement, vous l'aurez compris, quelle que soit la source de production d'énergie, pour nous, le schéma de la bagarre et de la résistance, je dirais, c'est d'aider et de comprendre les éleveurs, ce qui se passe chez eux, quel que soit le mode de production d'énergie autour d'eux, quelle que soit la source et la provenance. Je crois qu'il faut vraiment insister sur cet aspect. Les animaux ne vont pas bien, et souvent les humains ne vont pas bien dans cet environnement de la ferme. En ce qui concerne l'historique, j'habite donc le long du couloir de ligne qui descend de Flamanville. Pour les personnes qui n'étaient pas là tout à l'heure, voyez le département de la Manche. 200 km en longueur, 40 km de large, deux couloirs de ligne. À l'époque, il n'y en avait qu'un, maintenant, il y en a un deuxième, qui transporte ce qu'on appelle la THT, la très haute tension, ce qui transporte le courant électrique depuis Flamanville à travers les réacteurs de la Hague et aujourd'hui à Doubé de l'EPR, qui est donc cet engin dont vous avez entendu parler, qui, d'un devis de 3 milliards d'euros, aura coûté 23, 24, 25, 26, on ne sait pas. En tous les cas, il coûte cher et il va nous coûter cher longtemps, puisqu'il est là sans doute pour longtemps. Il vient donc d'être mis en route en 2026 et il est arrêté pour un an, le temps d'y remettre un couvercle qui va coûter peut-être pas loin de 800 millions d'euros. Voyez un petit peu. Bref, je ferme la parenthèse. Le long de ce couloir de ligne, des fermes, tout le long, il y en a encore un peu, ça diminue dans la Manche comme ailleurs, mais en tous les cas, à côté de chez moi, une ferme, celle de Serge Provost, paix à son âme, il nous a quittés il y a 4 ans maintenant. Il a été le premier en France à constater et à surtout décider de mener la bagarre pour aller jusqu'au bout, pour faire émerger ce qui se passe dans sa ferme, ce qui est trouble et sournois à la fois, c'est-à-dire que les animaux vont mal, l'élevage se dégrade. Et c'est un excellent éleveur, on peut dire, un technicien, on peut dire un vacher dans tous les sens du terme, un technicien d'élevage, quelqu'un qui est très proche de la manière dont ces animaux sont nourris, la pesée des aliments, la pesée des jeunes animaux, ce qu'on appelait à l'époque le contrôle de croissance. Voilà, un éleveur normal, mais à la pointe quand même. Voilà. On se connaît, on habite pas loin l'un de l'autre. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais donc porte-parole de la Confédération paysanne du département de la Manche. Et Serge m'interpelle, comme il interpelle l'ensemble des syndicats. Et il dit, ce qui se passe chez moi, c'est incompréhensible. Le vétérinaire ne peut plus rien faire. Les vétérinaires, 3 vétos à Saint-James notamment, on habite le pays de Saint-James, 3 vétérinaires associés, ne peuvent plus rien faire pour régler les problèmes dans mon élevage. Les animaux vont pas bien, les vaches mamitent. Le taux de cellules dans le lait est extrêmement important, les leucocytes. Les animaux vont pas bien parce que dans les cornadis, parfois, elles ne viennent plus manger leur ration. Elles ont peur de rentrer dans le cornadis. Et je constate des choses qui m'amènent à dire que la ligne électrique auprès du transformateur qui est le premier transformateur qui provient de La Hague, on est à 160 km de La Hague, le transformateur est sur ma ferme, 10 hectares, les câbles qui arrivent au transformateur et les pylônes autour, la ferme est complètement entourée de pylônes, hein, il y avait déjà à l'époque 8 gros pylônes, avec l'arrivée de câbles électriques venant notamment de l'usine marémotrice de la Rance, qui est une des plus grosses usines marémotrices au monde, qui produit donc de l'énergie à partir de l'eau. Tout ça est combiné dans 10 hectares de transformateurs électriques. Moi, je me rends chez lui. C'est normal, en tant que responsable syndical, et je connais bien, je dis, s'il m'interpelle, s'il nous interpelle, c'est parce qu'il est à bout, il ne peut plus faire tout seul. Et donc, on vient constater. Et là, quand je constate, je repars en disant, plus jamais je ne te laisserai, parce que ce que je constate chez toi, je n'y comprends rien, toi non plus, les vétos te lâchent, ou tout au moins les vétos sont impuissants, je continuerai à venir chez toi chaque fois que tu vas nous faire appel. Il faut qu'on trouve la solution. Et donc, très rapidement, il s'équipe de petits outils, je ne rentre pas dans les détails, mais de mesures de l'électricité, hein, des noms que j'ai appris comme la pince ampérométrique aux effets de champs magnétiques blindés, les grosses pinces que les professionnels de l'électricité n'avaient même pas dans la poche. Lui, il s'équipe avec ses propres deniers et il commence à mesurer l'électricité. Et il commence à chercher dans les revues à partir de quoi et de quel moment la vache pouvait être sensible dans son milieu. Et on commence à faire des mesures chez lui sur les mises à la terre de la clôture électrique, des cornadis, de bâtiments, et on commence à mesurer des taux d'électricité extrêmement importants. Et comme c'est comme dit l'autre, un fouille qui va jusqu'au bout, il commence à me dire, mais les mesures qu'on trouve là, la science, hein, la recherche, ce qui a été écrit par tel professeur, par tel scientifique, il y a longtemps, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, mes vaches, elles ont 100 fois la dose, là. Il y a un problème. Et il commence à poser le problème dans ce schéma-là. Et donc, moi qui étais assez engagé contre le développement des réacteurs nucléaires dans La Hague, et je me rendais souvent là-bas, on était souvent en action assez spectaculaire. Et par exemple, on faisait des pyramides avec des tubes, des néons, vous savez. Et quand on faisait nos pyramides avec le néon, on se rendait compte qu'il suffisait de mettre 5 personnes, puis 4, puis 3, puis 2, enfin un peu d'acrobate, hein, et on allumait les néons comme ça, bout à bout. Et donc, on est venu au moment de Noël chez lui, un soir, il faisait très nuit, et on a commencé sous les câbles électriques auprès de ces bâtiments d'élevage, on a mis des néons, on a fait une petite équipe, on a une petite chaîne, et on a commencé à voir les néons s'allumer. Donc, on s'est dit, les câbles, ils sont en haut, mais on commence quand même, nous, on ressent, tout au moins, on ressent rien dans notre corps, on est sur deux pieds avec des chaussures, mais pourquoi les néons s'allument? Il y a quand même un problème. Et la puissance des câbles électriques faisait qu'on avait de la luminosité dans les mains. Voilà. Alors, c'est ça le début du combat. Et donc, Serge commence à rechercher un petit peu, puis il voit dans Ouest France un petit article disant « Dans le Finistère, il y a un éleveur qui éleve Jean-Yves Puylandre, je le nomme, qui n'est plus de ce monde, hélas. Mais lui, c'est un technicien de production porcine. Il était technicien auprès d'un groupement. Il vient de s'installer producteur de porc, naisseur. Il a 48 truies et il dit clairement que sur 48 truies, il y a 40 truies qui ne sont plus enceintes, qui ont avorté. Et son élevage, il ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, en Ille-et-Vilaine, Joël Georgeau, à Châteaubourg, à côté de Rennes, un élevage sous la même ligne électrique que celle de Serge Provost. Il fait de l'engraissement de porc. Et sur une partie de la porcherie, hein, la porcherie est dans ce sens-là, la ligne électrique, la même que Serge, passe en bout du bâtiment. Et dans une partie du bâtiment, en bout du bâtiment, il a un taux de mortalité. 15 jours, 3 semaines avant de mettre les porcs à l'abattoir, il trouve des porcs morts de crise cardiaque, 5-6 porcs par nuit parfois. Et à chaque bande, il a un taux de mortalité énorme. Et le taux de mortalité monte jusqu'à 18% à certains moments. Alors que, en général, il était à 2,5% ou 3% dans les élevages des groupements. Donc, ces trois éleveurs-là se mettent à causer ensemble. Et à un moment donné, ils disent « faut qu'on mène un combat ensemble ». Il se trouve que moi, je me retrouve porte-parole nationale de la Confédération paysanne. Donc, je vais toutes les semaines à Bagnolet. Et là, je rencontre un ministre qui vient du Finistère, qui vient d'être nommé ministre. Il s'appelle Louis Le Pincec. Et on se connaît avant par le réseau Bretagne-Normandie un peu. Je lui dis, Monsieur Le Pincec, que dans le Finistère, il y a un problème avec un élevage sur la commune d'Arzano. Ben, il me dit, Arzano, c'est mon canton. J'habite Mélac. Ben, je dis, je sais. Et je lui dis, Monsieur Puylandre, il n'en peut plus. Comme Monsieur Provost, il n'en peut plus. Comme Monsieur Georgeau, il n'en peut plus. Il me dit, je ne laisse pas tomber ce que vous me dites. C'est mon voisin. Je suis venu chez lui en tant que conseiller général. Ce que j'ai vu chez lui, c'est inexplicable. On doit aller jusqu'au bout pour chercher la cause. Il y a un problème. Ah ben là, je me dis quand même, là, ben, c'est la première fois qu'on semble avoir une écoute. Et donc, il demande à son cabinet, et le directeur de cabinet, Bertrand Hervieux, il dit à toute l'équipe, vous allez me mettre un groupe de travail en place. Je veux comprendre ce qui se passe. Et là, il prend l'initiative devant moi de dire « Je demande à deux conseillers généraux de l'agriculture de faire un travail à M. Bennetière et Blatin, qui sont des gens en fin de carrière, qui leur donnent une mission puisqu'ils sont payés pour ça. Et il les envoie chez Provost, chez Puylandre et chez Georgeau pour constater ce qui se passe. Tous les deux seulement, dans les trois élevages, accompagné de moi-même. Il me demande de les suivre. Eh bien, on y va. Sur une journée, on fait les trois élevages et on écoute les trois éleveurs. Et donc, eux font un rapport qu'ils vont remettre au ministre dans la foulée. Et juste quand même par hasard, on arrive chez Puylandre à 9h du matin, dans le Finistère, là-bas, à Arzano. Tiens, il y a l'hélicoptère d'EDF qui est sur notre tête. Alors, ça me fout la trouille. Je me dis, punaise, c'est le ministre qui leur a dit qu'on était là ou pas? Enfin bref, il le savait. On vient ensuite chez Georgeau à la porte de Rennes, à Châteaubourg, et l'hélicoptère d'EDF nous survole sur la tête pour nous photographier. Et on rentre chez Provost à 16h pour la troisième ferme, et l'hélicoptère d'EDF survole la ferme. Là, je vous jure que là, vous commencez à vous dire, il se passe quelque chose, quoi. Hein, puisque à l'époque, EDF était encore existant. Maintenant, on a Enedis et RTE, puisqu'ils ont séparé les missions, qui n'étaient pas encore faites à l'époque, mais ils ont séparé par la suite. Donc, on se retrouve quand même dans une situation. Le rapport est donné au ministre, rapport Bennetière-Blatin, qui fait état de ce que les éleveurs constatent, et avec un certain nombre de pièces qui montrent que dans les trois fermes, les vétérinaires sortent de la ferme en disant « on ne peut pas répondre à ce qui se passe chez vous ». Je vous ai déjà dit les trois problèmes qu'il y avait. Donc voilà. Alors à l'issue de cela, le ministre décide de créer un organisme dans lequel toutes les organisations syndicales agricoles sont appelées autour de la table, un certain nombre de scientifiques, l'école vétérinaire de Maison-Alfort, l'ensemble des acteurs d'EDF, les médecins qui suivent les salariés d'EDF dans leur quotidien, des vétérinaires, tous ces gens-là, l'école vétérinaire de Nantes, tous ces gens-là autour d'une table. On se retrouve et le ministre dit ça va s'appeler j'ai oublié le nom, le GPSE, groupe permanent sur la sécurité électrique. À vous de travailler. Donc, on s'est retrouvés autour d'une table. Et ça commence par un travail qui consiste à dire on va rechercher à la fois ce qui se passe dans les trois fermes, mais en même temps, on va étendre la mission de recherche sur le lien, peut-être de causalité, entre les phénomènes des champs électromagnétiques. On ne parlait pas encore de courant parasite ni de courant vagabond. On parlait de champs électromagnétiques, de ce qui se passait dans l'atmosphère, puisque dans les trois fermes, on était plus sur des câbles aériens. Et donc, à l'issue de ça, une revue aussitôt a été mise en œuvre qui s'appelle « Mieux connaître les risques des courants électriques présents dans les exploitations, les courants, pardon, électriques parasites dans les exploitations d'élevage ». Et dans cette revue, le rôle, le politique, vient mettre dedans toute la panoplie existante des recommandations et des liens entre les animaux d'élevage, notamment, et l'électricité, quelle qu'elle soit. C'est donc le rôle vis-à-vis des techniciens, des poseurs de mécanismes électriques, des électriciens qui travaillent dans les fermes pour installer les machines à traire. Bref, toutes les personnes qui œuvrent autour des exploitations agricoles, les recommandations à faire et tout. Tout est dans la revue, et y compris les risques et les choses à ne pas commettre quand on développe les infrastructures dans les exploitations agricoles. C'est une revue qui nous sert de support. Et donc, en quelques semaines, on se retrouve avec cette revue. 200 exemplaires sont tirés et nous sont remis. Et comme autour de la table, il y a Groupama, au moins ces techniciens autour du GPSE, on se retrouve qu'en l'espace de 2 ou 3 mois, les techniciens de Groupama disent « Ah, mais la revue, il faut la tirer à nouveau. » Parce que nous, on a commencé à l'essaimer dans les départements, nous, en tant qu'assurance. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'éleveurs. Nos agents ont rencontré beaucoup d'éleveurs qui ont des problèmes. Et donc, on aimerait que cette revue-là serve dans les départements pour faire de l'information auprès des éleveurs. Donc là, on comprend qu'il n'y avait pas que ces 3 éleveurs, mais bien d'autres. Entre-temps, les éleveurs font de la communication, beaucoup de communication de la part de Serge Provost qui tape du poing sur la table, beaucoup de rassemblements chez lui avec l'ensemble des élus du territoire convié. Au bout d'un moment, ils en ont marre d'être invités, ils sont obligés de venir. Et moi qui suis là tout le temps, j'entends ce qui se dit. Ils écoutent, ils constatent qu'il y avait des fois, c'était tellement trouble qu'on n'avait pas de réponse. Mais en même temps, sortant de chez Provost, ils disaient, il va se calmer, et puis ça va passer à autre chose, quoi. Donc là, moi, je commence à dire, on ne lâchera pas. Donc, la Confédération paysanne qui a mené ce combat à ce moment-là a gagné le groupe permanent sur la sécurité électrique qui a une mission, 4 groupes de travail. Au départ, ils en avaient proposé 3 sur ce que je viens de vous décrire, notamment la recherche et tout. Et le 4e groupe de travail, c'est comment faire en sorte que là où il y a des cas concrets dans les fermes à travers le territoire, les éleveurs ne soient plus laissés seuls à l'abandon face à leurs difficultés et qu'on arrive à régler les problèmes techniquement, non pas d'attendre que les éleveurs aillent devant la justice, parce que c'était le début où les éleveurs déjà allaient vers la justice, mais qu'enfin les éleveurs, le pot de fer contre le pot de terre, et le contraire, les éleveurs n'ont pas les moyens d'aller en justice. Hein, c'est clair. Et donc, le temps qu'on attende les effets de la recherche, ils ne gagneront pas. Donc, on dit clairement, il faut un quatrième groupe de travail pour régler le problème qui est celui des cas concrets. Et donc, chaque fois que je suis convié autour de la table, j'y reviens avec les victimes. Ça, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dis aux trois éleveurs, vous venez avec moi à Paris, mardi, il y a la réunion l'après-midi à l'agro, bref, dans les endroits. Et donc, pour la communauté qui était autour de la table que je vous ai citée tout à l'heure, ils disaient, mais monsieur Dufour, ça suffit. Les trois éleveurs, on ne veut pas les entendre parce qu'on veut être libre de parler entre gens bien pensants. Les éleveurs n'ont rien à faire là. Et eux, les éleveurs, ils ont dit, non, non, si on ne met pas la pression, jamais ça n'avancera. Et effectivement, à chaque fois, les éleveurs venaient informés, et c'était eux qui étaient les plus informés de ce qui se passait par rapport aux techniciens et aux vétérinaires qui étaient autour de la table. Donc voilà toute la période historique qui a mené à ce que les éleveurs créent une association qui s'est donc appelée Animaux sous tension. Ils ont fait connaître cette association-là et à travers le territoire, des éleveurs sont venus se greffer de la Corrèze, du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aveyron, dans beaucoup de régions de France, de la Loire-Atlantique. Et à un moment donné, on s'est retrouvés, je les ai toujours accompagnés, en Assemblée Générale, parce que j'ai adhéré aussitôt à l'ASSO, avec 20-25 éleveurs qui venaient des quatre coins de France et qui se retrouvaient régulièrement en Loire-Atlantique, c'était assez central, pour définir le combat ensemble et essayer à la fois de définir comment on allait continuer, mais en même temps de mettre la pression sur les politiques et sur les scientifiques et tout. Et pour conclure, simplement, on avait réussi à gagner dans nos discussions autour de la table du GPSE la mise en place d'une école, d'une ferme expérimentale qui devait être mise en œuvre chez Provost, puisque l'élevage a continué à décliner. On a été en négociation pour savoir de quel montant du préjudice EDF allait donner. On a négocié comment on pouvait délocaliser Provost à 8 km parce que c'était invivable dans l'environnement dans lequel il était. Bref, toute cette période-là, ça a duré quand même 4-5 ans. Ça a bataillé très dur. Et pendant ce temps-là, on a gagné la naissance d'une ferme expérimentale, non pas encore dans l'école vétérinaire de Maison Alfort ou à la ferme de l'école vétérinaire de Nantes, mais concrètement à ciel ouvert chez Provost, où on devait suivre un troupeau de 20 vaches laitières. Ils devaient suivre un troupeau, les écoles vétérinaires, l'INRA de Rennes, et en même temps un élevage de cailles, puisque soi-disant la caille, la ponte des cailles, les œufs de cailles étaient très sensibles aux courants et aux effets, aux impacts. Juste aussi pour dire qu'en continuant nos recherches, on s'est rendu compte que de temps en temps, lorsque on ouvrait les cornadis en fonction d'un sens du cornadis par rapport à l'autre et par rapport à la ligne électrique et son passage des câbles électriques, lorsqu'on ouvre un cornadis dans ce sens-là, on prend plein de jus et les manomètres montent au plein pot. C'est-à-dire que là, on a 100 fois la dose. Quand on referme le cornadis, tout disparaît. Donc, on est à chaque fois dans un effet, dans une nébuleuse qui montre que comment prouver tout ça, n'empêche que nous, on constate. Voilà. Voilà ce que je voulais dire dans cette première partie du combat. Et je redonne la parole à Bénédicte.
Merci, François. Moi, j'écoute toute cette histoire-là en 2018. J'ai envie de vous dire, 30 ans après, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Tous les éléments qui ont été obtenus sur l'expertise judiciaire, le rapport de visite chez les trois éleveurs pionniers, on les appelle pionniers, sert devant les tribunaux. Ils ont un biais qu'on a découvert l'année dernière, c'est qu'en fait, cette expertise française qu'on retrouve devant les tribunaux s'est inspirée du travail des recherches américaines. Et tout ce travail américain a été financé par l'industrie de l'électricité, par les compagnies électriques. Ça a irrigué notre expertise française et c'est ce qui permet d'éliminer aujourd'hui tous nos dossiers devant les juridictions parce qu'on a obtenu des seuils très bas. On a, on part d'une sensibilité de la vache, je reste toujours sur la vache puisque le travail a porté là-dessus. On a tous une résistance corporelle à l'électricité. Celle de la vache a été, donnée en 1988, donc dans un contexte expérimental. Donc ça veut dire hors du milieu de vie d'une vache, c'est-à-dire il n'y a pas l'humidité, il n'y a pas tous les paramètres de l'environnement. Et puis on était dans les années 80. On est quand même en 2026. Rien de tout ça n'a été revu. Quand même, il y a eu la sélection génétique. On a des environnements dans les fermes qui ont vraiment changé. On a une exposition électrique qui est quand même aussi multipliée, je ne sais pas par combien, mais en tous les cas, qui est beaucoup plus dense dans les exploitations laitières aujourd'hui. Donc, en fait, on continue à fonctionner avec des données scientifiques anciennes, dépassées parce qu'elles ont été menées, enfin dépassées, contestables parce qu'elles ont été financées et obtenu par de la recherche financée par les compagnies électriques. Et ça, on n'arrive pas à s'en défaire. Ce qui explique que 30 ans après le travail qui a été amorcé par François, la Confédération paysanne et ses éleveurs pionniers, on n'avance pas sur le volet judiciaire. On a juste eu une belle victoire en mars 2025. Elle est très importante pour vous. Pour la première fois, le tribunal, la cour d'appel de Caen, a reconnu, a confirmé la présomption de lien de causalité entre une ligne haute tension et le préjudice subi par le troupeau laitier, avec la perte laitière, l'explosion des frais vétérinaires. Donc là, on n'a pas eu besoin de preuves scientifiques. L'éleveur qui s'appelle Dominique Vaupré, qui était l'ami de Serge Provost, et Serge Provost, avant de mourir, lui a dit « il faut que tu retournes au tribunal ». Cet éleveur avait perdu son premier procès en 2012. Il a délocalisé à 54 ans, sa ferme, tout recommençait à zéro. Il a cherché de l'argent, il a appelé la famille, les copains, les voisins. Il a refinancé son installation à 54 ans. Il a dit « je veux apporter la preuve que je ne suis pas un mauvais éleveur ». Parce que c'est le discours qui circule aujourd'hui dans le débat public, dans l'espace public. Tous ces éleveurs sont des mauvais éleveurs. Ils ne savent pas conduire leur troupeau. Donc ça, c'est ancré même dans le monde agricole, ce qui fait que c'est aussi le deuxième frein pour faire avancer ce combat. Donc, je me suis perdue en parlant. Jeanne était à Dominique, oui, il a délocalisé. Il a retrouvé une vie normale. Grâce à la délocalisation, il porte plainte une seconde fois contre RTE, qui est en charge du transport de la très haute tension. Et là, les juges ont suivi. Il a apporté les preuves qu'il y avait un avant où il a vécu sous une ligne avec un troupeau en très grande souffrance, et un après la délocalisation, où il a retrouvé une vie normale, une économie, et le tribunal a reconnu le préjudice financier. Et il explique qu'on n'avait pas besoin de preuves scientifiques parce qu'on a des faits suffisamment probants. Ça, il aura fallu quand même plus de 30 ans grâce au travail de ces éleveurs pionniers pour aboutir à cette décision et à tous ces documents qui ont été quand même accumulés et expertise, parce que là je fais un grand pont entre 90 et 2025, mais il faut imaginer que dans tout ce temps il y a eu énormément d'expertise judiciaire, mais Jean-Claude va parler là-dessus.
Nous avons perdu une grande partie de nos éleveurs par soit les faillites, le découragement, le suicide parfois, les problèmes psychologiques, les déchirures dans les familles, mais presque tombés financièrement, ruinés. La ferme de Provost, tous les bâtiments sont restés à l'identique, qu'on pourrait dire, entourés d'épines et de ronces qui montent à 6 mètres de hauteur. Voilà comment finissent les corps de ferme. Mais on a très peu d'éleveurs qui ont survécu de ce moment-là.
Pour revenir au débat autour du photovoltaïque, le photovoltaïque, c'est une nouvelle problématique. D'abord parce que les élevages étaient d'abord des consommateurs d'électricité et qu'avec le photovoltaïque, ils deviennent aussi des producteurs dans des milieux particulièrement humides et donc conducteurs. On a quelques cas d'éleveurs victimes d'installations sur les toits. On n'a pas de cas au sol. Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'on a des points de vigilance qui peuvent vous intéresser. C'est-à-dire que la structure d'un parc photovoltaïque est composée. Il y a les onduleurs, pour transformer ce courant continu en alternatif avant d'être injecté. Et les onduleurs sont les premières causes de pollution dans les élevages. On a les transformateurs, les postes sources. Là, on a aussi des problèmes avec les transformateurs Enedis, notamment aussi sur les prises de terre du neutre. On a des problématiques aussi sur les courants souterrains. Il ne faut pas croire que parce que la ligne elle est sous nos pieds, on ne risque plus rien. Elle est parfois même plus dangereuse sous nos pieds qu'au-dessus de nos têtes. Et on a donc des soucis aussi donc, avec des problématiques autour des prises de terre qui, des fois, ne sont pas suffisamment costauds, enfin, en tout cas efficaces. Ou alors, au contraire, elles sont tellement efficaces qu'elles captent toutes les pollutions environnantes et toutes ces pollutions se retrouvent aussi dans les bâtiments. Donc, je vais vous parler d'abord du premier point de vigilance, des onduleurs, à travers un cas. On est allé en Suisse au printemps dernier. On a rencontré Marc. Marc, c'est un éleveur laitier à 30 minutes au nord de Lausanne. Il a 80 vaches laitières, race brune des Alpes. Marc était le numéro 1 mondial dans la race brune des Alpes. C'est-à-dire que les Américains venaient chez lui. Donc déjà, on peut écarter le fait de l'incompétence. C'était vraiment un top du top dans la race. Très bon sélectionneur. Et quand les Américains viennent chez nous, c'est quand même, enfin, dans les élevages français ou européens, c'est quand même déjà un signe. Ça veut dire quelque chose. Grâce à l'excellence de son travail génétique, il a gagné de l'argent et il s'est dit chouette. Je travaille dans l'étable de mon grand-père qui date de 1953. Je vais pouvoir me payer une magnifique stabulation. Et il se finance grâce au photovoltaïque qui va occuper le toit de la nouvelle stabulation. Ça lui permet de financer aussi le montage financier de ce nouveau bâtiment. Quand il est en bord de route, il fallait absolument ce volet écologique. En Suisse, il faut quand même, ça c'est très important. Donc il fallait de l'intégration paysagère et un volet écologique. 1400 m² de panneaux, je crois que ça fait 200 kW en puissance. Le bâtiment est tout sécurisé au niveau des normes électriques, équipotentialité, c'est-à-dire que tout ce qui est métallique est mis à la terre. Il a posé un robot de traite, donc sous le robot de traite, c'est du béton ferraillé. Tout ça mis à la terre. Sur le conseil de son électricien, le local des onduleurs est construit à 35 mètres du bâtiment des vaches. 35 mètres, parce qu'il sait d'expérience qu'il peut y avoir des fuites. On est en 2021. Il fait le transfert du troupeau. C'est très rapide. Les jours passent, elle commence à s'agiter, commence à avoir du stress. Elle refuse d'aller au robot. Donc on peut imaginer que c'est peut-être le robot qui est problématique. Donc il regarde, il vérifie tout ça. Elles prennent du jus au niveau des trayons qu'on fixe aux mamelles. Et quand même, ça s'amplifie. Elles arrêtent de boire, elles mangent moins, et une vache qui mange plus et puis qui boit plus, bah elle s'affaiblit et elle produit plus. Et surtout, il y a un phénomène qu'il n'a jamais eu sur la ferme, c'est des boiteries incurables, des abcès sous les sabots. Donc le vétérinaire n'a jamais vu ça non plus. On a tout essayé, des abcès qui finissent par infecter l'animal, qui en plus ne se lève plus, donc il ne peut plus s'alimenter, mais en tout cas qui est gagné comme ça petit à petit par les maladies. Donc les animaux, le troupeau rentre en juin 2021. En août 2021, on lui dit, tu as fait de la sélection génétique, tes vaches sont très sensibles. Ok, il achète 20 vaches dans un autre élevage. Dans le mois d'août, il fait rentrer ses 20 vaches dans le bâtiment, il en perd 12. Donc là, travaille avec son nutritionniste, il travaille avec le vétérinaire parce qu'on cherche d'abord des causes internes. Le vivant, il peut avoir en fait toutes sortes de contaminations. On cherche le volet vétérinaire. Donc tout est passé en interne, tout est passé. La nutrition, le sanitaire. Ses allers-retours à l'écarissage lui valent un contrôle pour maltraitance animale. En moins d'un an, il a perdu 31 vaches et 43 veaux. Et en septembre, donc plus d'un an après, en septembre 2022, il fait venir un électricien qui est spécialiste en assainissement de pollution électromagnétique dans les bâtiments agricoles. Ce bonhomme-là, il a déjà traité au moins 200 cas en Suisse. Et là, il fait des mesures pendant plusieurs jours. Il en pose partout, il regarde. Et il identifie la source, c'est des courants induits par les onduleurs. Donc en fait, il y a des fuites sur les câbles. Ça parcourt, en fait, ça arrive sur le toit de la stabulation. Tout ça, il y a des parafoutes sur les toits de la stabu. Il y a des gouttières en métal. Donc tout ce courant parasite circule partout dans les bâtiments. Ça redescend, ça reçoit tout le métallique jusqu'au robot de traite. Le béton ferraillé se charge aussi. L'électricien intervient, il pose des choses que j'ai jamais vues en France, ça s'appelle des éclateurs. Des éclateurs à gaz, et je crois que c'est une boîte française, Amperio. Il pose des bagues magnétiques en fait, à la sortie du boîtier électrique. Ça casse un peu les fréquences. Ça permet de réduire. Tu parlais de micro-Tesla tout à l'heure. Pour l'animal, on ne parle pas de micro-Tesla, ça concerne la santé humaine. Pour l'animal, on parle en milliampères. Le seuil, ce fameux seuil américain dont on a arrêté, c'est 3,6 milliampères. On sait qu'à partir de 3,6 milliampères, on a des soucis sur l'animal. À partir de 5 milliampères, le changement de comportement des vaches fait basculer toute la santé du troupeau et on a une chute laitière caractérisée, reconnue par les tribunaux. 5 milliampères. Chez Marc, on était entre 300 et 800 milliampères pour une installation de 1400 mètres carrés dans une stabulation aux normes électriques. Donc quand en France, on vous dit « Ouais, mais il y a un défaut sur l'installation électrique de la ferme, ça n'a pas été fait dans les normes. » Je veux dire, ce n'est pas une petite fuite d'une installation électrique qui peut causer autant de dégâts sur le vivant. Donc là, on est en 2025, on a vu Marc. La solution n'est toujours pas réglée. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, on lui a dit « N'avertis pas les médias, on va trouver une solution. » Donc il a fait une négociation à l'amiable avec la juriste de la Chambre d'agriculture. À l'amiable avec l'opérateur photovoltaïque. Et l'opérateur photovoltaïque, au début, est de bonne intention. Il lui dit « On va trouver une solution, on va en parler à nos assurances. On va vous indemniser. » L'opérateur revient en disant « On a un problème ? » Les assurances nous disent que le risque électromagnétique n'est plus couvert. Depuis 1997 et le scandale de l'amiante, le risque électromagnétique n'est pas couvert. Vous pouvez regarder vos contrats d'assurance. Si vous avez un problème avec la téléphonie mobile ou autre, vos voitures électriques. Je signale au passage que j'ai une amie qui vient d'acheter une voiture électrique. Et à l'intérieur, il y a, de la part des constructeurs dans la notice, un petit paragraphe qui indique que c'est de notre responsabilité si on se connecte avec tous les jolis outils qu'on nous propose, Bluetooth, si on chope le GPS avec nos téléphones depuis l'habitacle, l'exposition aux champs électromagnétiques à l'intérieur de la voiture nous concerne. Donc depuis 1997, le risque électromagnétique n'est plus couvert. Donc en fait, circuler, il n'y a rien à voir, Marc se retrouve au point zéro, plus de solution. Il va commencer à bouger les politiques. Il va interpeller les locaux, la chambre d'agriculture, il y a du monde. Et puis, il rencontre d'autres éleveurs qu'on a rencontrés nous aussi, qui ont des problématiques avec les rails de chemin de fer, avec une antenne relais, avec l'enfouissement du réseau électrique. Parce que dans un hameau, et le transformateur avait été posé dans la ferme, et tous les câbles électriques du hameau venaient se connecter sous la ferme qui avait été construite sur un marais. Donc en fait, lui aussi, c'est zone humide. Donc mauvaise cohabitation, l'eau, l'électricité. Marc a quand même réussi à avoir des avancées politiques, et lundi, le Parlement suisse va étudier un texte qui est proposé par un drôle d'attelage, la droite conservatrice, mais le groupe écolo va soutenir le texte qui demande un moratoire sur le photovoltaïque en élevage. Et ça, c'est le travail de ces 3-4 éleveurs suisses qu'on a rencontrés, qui sont partis un peu de l'expertise française pour essayer d'avoir des données, des explications sur ce qui se passait chez eux, parce qu'ils se sont retrouvés 30 ans plus tard confrontés aux mêmes problématiques que Serge Provost, Jean-Yves Puyland. Et c'est quand même dingue de se dire que les savoirs ne passent pas les frontières. Et tu parlais de Via Campesina tout à l'heure, et je t'écoutais et je me disais, mais c'est dingue qu'on n'arrive pas à faire circuler ce type d'informations d'un pays à l'autre en disant attention, on a des expériences dans les fermes, voilà ce qui peut se passer au contact de l'électricité ou des ouvrages électriques. L'autre avancée que l'on doit à ces éleveurs suisses, elle est toute récente. Au mois de décembre, ils ont en fait co-initié la création d'une fondation pour la recherche indépendante sur les courants parasites. C'est la première fois en Europe qu'on a une telle initiative. Et j'espère, là, ils ont fait une levée de fonds. Ils me disent, on n'a eu que 55 donateurs. C'est dur. Mais la Chambre d'agriculture les aide. Ils ont payé la petite vidéo de communication. Enfin, en tout cas, ça, c'est amorcé. Un éleveur des Pays-Bas, je vous en parlerai tout à l'heure, parce que les Pays-Bas, l'éolien et le solaire, ça pose aussi souci dans l'élevage. Il y a un éleveur des Pays-Bas qui vient lui-même de créer sa propre fondation pour lever des fonds sur la recherche indépendante sur les courants parasites et vagabonds. Donc, en fait, c'est l'initiative citoyenne et des victimes qui va peut-être enfin faire avancer les choses. Et en tout cas, donner peut-être du crédit à des recherches indépendantes, ce qu'on n'a pas aujourd'hui pour juger les dossiers. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle qui vient du côté suisse. Deuxième point de vigilance, les transformateurs électriques. C'est la première problématique de pollution dans les élevages. D'abord, il y a beaucoup de transformateurs qui commencent à être saturés. On a multiplié les parcs éoliens et ils ont du mal, ils sont tous raccordés des fois sur des postes anciens. Donc là, on peut avoir des fuites, des tensions de réseau, et ça peut se ressentir dans les élevages laitiers. Ceux qui sont équipés de robots de traite, en fait, ont les meilleures données, parce que le robot de traite enregistre les données de traite, et ils savent exactement à quel moment le parc est arrêté, à quel moment il repart, ils savent, en fait, un jour, l'éleveur, il se dit, tiens, il y a un retour à la normale. En fait, il a vu l'équipe d'Enedis qui intervenait sur le câble, un câble qui avait été endommagé, et pendant les 2 jours de travaux, il avait retrouvé une vie normale. Donc, on a quand même des observations d'éleveurs qui ne sont peut-être pas des données scientifiques, mais qui sont des faits suffisamment probants pour argumenter et dire qu'on peut avoir... Heureusement, les cas qu'on évoque là aujourd'hui sont des cas extrêmes non résolus. Je vais vous parler d'un cas qui a été résolu, malheureusement qui a perdu devant la justice, mais... il a retrouvé une vie normale. C'est l'histoire d'Alain Crubois qui est dans l'Orne. Alain Crubois, énormément médiatisé. Un éleveur laitier avec 70 vaches en traite robotisée. En 2011, Enedis lui dit, écoutez, votre ligne de 20 000 volts là, qui passe au-dessus des parcelles, on va l'enterrer. L'éleveur dit, bah, c'est super, je ne la verrai plus. Elle m'embêtait pour les virages avec le tracteur, le poteau là au bout du terrain. Ils enterrent. Au fil des mois... les vaches commencent à délaisser des endroits de la stabulation et s'agglutinent sur un coin du bâtiment. Elles ne se couchent plus. Retard à la traite. Donc sur un troupeau de 60 laitières, il y en a entre 20 et 40 qui ne se présentent pas au robot tous les matins. Donc le temps de travail qui se rallonge. Il faut les pousser. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Un problème de croissance chez les veaux. Les veaux ne s'alimentent plus non plus. Et comme tous les élevages laitiers, ça se traduit par une chute de la production laitière. En fait, les vaches, à force d'être exposées au courant électrique, perdent leur système immunitaire. Et la perte du système immunitaire entraîne la multiplication des maladies. Donc, le vivant, on sait qu'il peut être confronté à des problèmes avec des maladies d'élevage qu'on connaît très bien. Mais le phénomène électrique amplifie les maladies et les rend souvent incurables. Donc, cette ligne enterrée, au début, Alain ne la regarde pas. Il commence lui aussi à travailler en interne. Le nutritionniste, le sanitaire, peut-être que le robot de traite a changé la vie des vaches. Donc tout ça est regardé, tout ça est étudié avec les conseillers d'élevage. C'est une ferme qui est plutôt connue, il l'a reprise à son père. C'était des gens sans histoire, plutôt cinquième génération. Donc vraiment un élevage qui a toujours fonctionné. Et Alain commence à regarder dans la presse quand même, sur Internet. Et là, je pourrais presque te repasser le micro.
Et là, donc, il nous fait appel à Serge Provost et à moi. Et il nous demande si on peut venir constater chez lui. Et donc, forcément, on vient avec les appareils de mesure. On constate chez lui. Et Serge Provost, quand il voit les vaches isolées dans 3 endroits de la stabu et des endroits complètement vides, il dit ça vient de ton environnement qui est pollué par le sol. Et là, quand on commence à regarder... comment ils ont tiré le câble souterrain, là où ils ont posé le transformateur nouveau, tout neuf, à 150 mètres dans la parcelle. On commence à questionner Alain en lui disant la zone là, est-ce qu'il y a de l'humidité? Et là, il nous dit bien sûr, toute la zone là, il y a des moments en hiver très humides, c'est couvert d'eau. Et on lui dit, ils ont mis le transformateur dans l'eau. La prise de terre à 6 mètres de profondeur doit être dans l'eau. À tous les coups, ça peut venir de là. Et quand on mesure les différents courants avec nos appareils de mesure, on se rend compte que toute la zone du robot, elle est blindée d'un surdosage d'électricité partout. Les animaux, effectivement, ne peuvent plus venir. On lui dit, coupe le courant et on va aller manger. Tu vas nous payer à manger. Il est midi moins le quart. On ne va pas repartir avant et on va rester jusqu'à cet après-midi. Il coupe donc tout le jus de la ferme. Le robot, forcément, s'arrête. Les vaches sont là en attente. Et pendant 4 heures, plus rien ne fonctionne. On revient mettre les mesures en place avant de repartir chez nous. Et au moment où on remet les mesures en place, on retrouve le même taux d'électricité dans tout le périmètre qu'on avait en arrivant. Et là, on dit, en fait, toute la zone est sous pression de l'énergie, de l'électricité. C'est sûrement la zone humide. Et donc, effectivement, il faudrait plusieurs jours pour arriver à décompresser l'électricité dans tout ton environnement. C'est pour ça que les vaches ne vont pas bien. Et c'est là qu'ils rentrent dans le combat pour dire, je demande, après avoir fait venir une multitude de personnes médiatisées, le préfet, le député, le sénateur, tout le monde est venu, et sur la pression, il arrive à arracher la remise du câble enfoui dans les airs. Et là, il fallut mener les combats. Le préfet était d'accord, la sénatrice était d'accord pour dire on va pousser dans ce sens-là. Et là, au moment où on propose ça à Enedis, Enedis dit à Alain Crouillebois, OK, mais il me faudra 60 000 euros, quelque chose, 80 000 euros pour ressortir le câble souterrain. Et là, Alain dit non, mais attendez. Et donc, il a fallu bagarrer à nouveau. Donc, effectivement, le câble a été remis en aérien, 3 poteaux ont été replantés et en l'espace de 4 à 5 jours, le sol s'est déchargé, les animaux sont revenus à une situation normale. Il se trouve qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, le câble souterrain, il avait été coupé dans les deux bouts par Enedis, il n'avait pas été enlevé du sol. Et un dimanche matin, Alain Crouillebois nous appelle en disant « C'est reparti de plus belle, mes animaux ne viennent plus se faire traire ». Et je ne sais pas ce qui se passe et autres. Et on s'est rendu compte qu'il avait plu beaucoup les jours d'avant, que la zone était encore chargée d'électricité et que les câbles souterrains, on est revenu, Serge Provost est venu faire une mesure et il a retrouvé les câbles souterrains qui étaient encore fortement chargés et alimentés par une mise à la terre qui était mal placée dans la ferme, qu'il fallait enlever. Et en enlevant la mise à la terre, simplement la dévissant, la déboulonnant, on sentait que le courant électrique disparaissait. La remise à la terre, pourquoi ? Parce que la remise à la terre avait les pieds dans l'eau. Donc, voyez bien, quelle que soit la source d'énergie, lorsqu'il y a dans tout l'environnement une zone humide, elle ne peut pas cohabiter avec une production d'électricité. Et comme disait Nathalie tout à l'heure, le courant, il se faufile là où il peut se faufiler. Et effectivement, il se faufile dans l'eau. Et les animaux ne supportent pas. Parce qu'à quatre pattes, c'est écrit dans ce petit document, à quatre pattes, les animaux n'ont pas de chaussures, le courant fonctionne en diagonale et la panse de la vache à l'endroit où les deux, le pied droit avant, pied gauche arrière et l'inverse, au croisement de ces diagonales, la panse de la vache se met en position d'être dans le stress, la rumination ne se fait très mal. La production laitière alimentée par le sang, puisqu'il faut quand même des dizaines de litres de sang qui circulent pour produire un litre de lait. L'animal est en pauvreté, en anémie, et l'animal chute et se casse vite la figure. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, on a compris ça au fur et à mesure. Dans toutes les fermes, les mêmes effets ont reproduit puisque les symptômes étaient similaires. Hein ? Voilà.
Je vois qu'il est 8h20. Je vais te passer la parole, Jean-Claude, pour le volet juridique, mais je pense que c'est important, on pourra revenir. Moi, j'ai d'autres témoignages. Je ne dis pas qu'ils sont tous aussi intéressants, mais je pense que vous avez compris, on peut avancer un peu. Et je pense que c'est quand même important que tu reviennes sur le volet juridique avec...
D'accord. Donc, j'insiste sur le témoignage que tu viens d'apporter par rapport à la situation des victimes et des zones qui sont impactées. C'est-à-dire qu'il y a une ligne électrique qui passe. On a éventuellement du photovoltaïque ou n'importe quoi ou de l'éolien. Et en fait, y a quelqu'un qui est sous la ligne ou tout près, puis qui n'est pas impacté, comme bizarrement. Puis à côté, y a un éleveur, les problèmes se développent. C'est terriblement important d'imaginer qu'il y a un paysan, un éleveur sur 10 qui est impacté par ce type de dégâts. Et donc, le problème, c'est qu'on a affaire véritablement au monde invisible et que c'est excessivement difficile de démontrer. On n'a pas les études scientifiques. Moi, je pense que les porteurs de projets, Enedis, EDF, les porteurs de téléphonie mobile ou les fabricants d'éoliennes, ils connaissent beaucoup de choses, mais ça reste secret professionnel. Donc, on ne diffuse pas les informations et encore moins dans les tribunaux, parce que c'est le gros problème. Donc, on se retrouve devant une problématique dont on n'a pas de données scientifiques qui démontrent que comment un élevage peut être impacté à cet endroit-là, puis qu'à côté il y a tout se passe bien. Donc on a l'idée de conforter les éleveurs qui sont concernés de la même manière que les victimes des pesticides. Donc on connaît bien Paul François, c'est un ami qui est en Charente. Et là on retrouve, on se dit qu'avec un cabinet d'avocats comme François Lafort, qui ne défend que des victimes, il ne défend pas, c'est un cabinet d'avocats où il y a une dizaine d'avocats, 12, et puis ils sont une trentaine à travailler dans cette entreprise. On se dit qu'avec des gens comme ça, on va avancer, on va solutionner nos problèmes. Parce que, s'il a gagné sur les pesticides, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas sur les ondes électromagnétiques, puisqu'il y a des dégâts, des animaux qui sont malades et qui sont perdus. Le souci, c'est que c'est pas facile à démontrer, puisqu'on n'a pas d'éléments scientifiques. Donc, il part sur un raisonnement qui est très important, il dit qu'il y a une situation avant. Bon, on verra tout à l'heure, par exemple, dans l'exemple de Didier et Muriel, que Didier, ça fait 33 ans qu'il est agriculteur, éleveur. C'est un éleveur qui est administrateur du Airbook Normand. Il fait les concours. Tout se passe bien jusqu'au moment où il y a les éoliennes qui se mettent en route, à Nozay. Et là, d'un seul coup, les animaux, les vaches ne vont plus se faire traire. Même scénario que chez Alain Crouybois. Et ils négocient, ils s'inquiètent, ils vont voir, bien sûr, ils s'occupent avec les services vétérinaires, la chambre d'agriculture, tous les gens compétents autour de l'élevage. Et finalement, ils en viennent à suspecter quand même une pollution électrique. Et effectivement, il y a eu la construction de 8 éoliennes à proximité qui provoquaient des dégâts, des nuisances sur le troupeau. On y reviendra tout à l'heure. Donc, on s'est retrouvé donc avec Christian Lafort dans différentes juridictions, et puis. Il n'y a que le procès de Dominique que l'on a pu gagner. Les autres jugements ont tous été perdus, y compris Parce que c'est le même tribunal qui a jugé en appel Alain Croulebois. C'est-à-dire que ces deux phénomènes, Dominique a délocalisé sa ferme, comme tu l'as raconté tout à l'heure. Lui, devant les tribunaux, il a gagné son procès. Il a été indemnisé de la délocalisation de sa ferme. Il a déplacé son troupeau sur un autre site. Bon, chez Alain Croulebois, c'est un peu la même chose, sauf que ce n'est pas le bâtiment qui a été déplacé, là, c'est la source de pollution. C'est la ligne électrique qui a été déplacée avec le transfo. Il y en a un qui a gagné son procès et l'autre qui reste condamné. On ne comprend pas. On ne comprend pas, sauf que, bon, il y en a un qui a 20 000 volts, il devrait... Bon. Mais à chaque fois, c'est toujours la compétence de l'éleveur qui est mise en cause. Et ça, c'est terriblement grave, quoi.
Qu'on soit sur des puissances de ligne très différentes, on retrouve les mêmes problématiques. Dans le Finistère, c'était une 20 000 volts à côté d'une. C'était même pas des ports en batterie, c'était des ports en plein air, semi-plein air, comme on dit. Et autrement, on se retrouve avec des 2 fois 400 000 volts chez Provost et on se retrouve avec simplement des petits câbles qui transporte depuis une éolienne ou deux éoliennes l'électricité jusqu'au transformateur. C'est-à-dire que chez Yann Joly, en Picardie, on a affaire à deux éoliennes qui vraiment posent problème en allant vers le transformateur sous terre, alors qu'autour, il y a plein d'autres éoliennes et que ça n'a pas posé de problème. C'est là qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre conscience que tout le monde peut se retrouver piégé. Alors, on ne parle pas des humains et ce qui peut se passer dans vos maisons. Nous, on est branchés volontairement sur les animaux. Mais c'est là, justement, où lorsque les éleveurs suspectent les choses et voient la dégradation du troupeau, ils ont vraiment besoin qu'autour des personnes, des citoyens, un collectif secret pour les soutenir. Si les éleveurs sont seuls, ils perdront toujours leur procès. Quasiment toujours, les avocats nous avaient prévenus dès le début, ça va être soit une pression collective autour de l'éleveur qui permet à l'avocat d'avoir derrière au moins, je dirais, une pression reconnue par les tribunaux. Si l'éleveur arrive tout seul avec son dossier, n'ayant pas eu les scientifiques à lui apporter des éléments, presque toujours l'éleveur tombe.
Tu as 5 minutes pour parler, Didier.
Je vais d'abord parler de la confidentialité, parce que à chaque fois qu'on a des victimes qui viennent nous demander de défendre, ils font aussi régulièrement, pour la plupart, appel au GPSE. Et dans les conditions qui sont données par ces structures, par cette structure, c'est surtout de ne pas en parler ni aux syndicats et encore moins aux journalistes. C'est-à-dire que tout se passe, on va vous aider, on va vous indemniser. Quelques éleveurs, très très rares éleveurs, ont été aidés et financés pour délocaliser leur exploitation, mais à la condition qu'ils se taisent et que ce soit confidentiel. Ça, c'est quelque chose d'absolument terrible, parce que c'est antidémocratique au possible. C'est complètement insoutenable, insupportable. Et c'est pas par hasard, c'est qu'ils savent bien quand même les dégâts qu'ils sont en train de faire et que les solutions, ils les ont. Parce que la solution, il n'y a pas de solution sur place. Quand un courant d'eau passe, qu'il y a une faille de roche, qu'il y a un fil de terre argileuse qui passe, le courant transite à travers ces éléments-là et on ne peut pas changer la source de place. Donc, il faut délocaliser la ferme pour avoir une solution. Donc, je voulais vous dire ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que à Nozay, chez Didier et Muriel, les dégâts sont absolument énormes. 8 éoliennes sont installées. Du jour au lendemain, l'élevage normand, qui était hyper performant, ben, devient un élevage malade, avec des mammites, avec des tas de problèmes de santé et des frais vétérinaires absolument énormes, avec d'énormes pertes. Donc, ils étaient très compétents jusqu'au jour où les éoliennes se sont installées. C'était en 2012. Et il n'est pas tout seul, parce que la voisine, Céline Bouvet, subit exactement des dégâts identiques. Dans les alentours, il y a des gens aussi qui ne peuvent plus dormir, qui ont des problèmes de santé. Il y a une autre ferme qui est aussi concernée, mais qui, elle, n'a pas accepté de se battre. En tout cas, bon, il y a près de 400 animaux, 300 adultes minimum. Il y a plus de 460 animaux qui sont morts. 460 animaux, bon, il y a les veaux, hein, mais il y a des vaches, il y a des bêtes d'engraissement, il y a tout ça, c'est en moins de 10 ans. Plus de 400 bêtes mortes en moins de 10 ans. C'est insoutenable. Alors, il y a eu une trentaine d'expertises nommées par les préfets, par les structures officielles, avant qu'ils portent plainte. Et après la plainte, il y a eu des expertises, d'autres expertises qui ont été développées. La dernière en cause, en cours, elle est insoutenable. L'expert qui a été nommé a exercé 17 reports sur 2 ans, 17 reports de date pour effectuer l'expertise. Mais c'est incroyable. Et il demande quand même 33 000 euros pour les frais d'expertise. Le comble, c'est que le tribunal avait accepté la demande de la famille pour faire l'expertise sur les câbles électriques. À notre demande, on avait... parce que c'est l'éolienne, elle fonctionne, mais ce n'est pas l'éolienne en tant que telle qui fait des dégâts. Les dégâts, c'est l'énergie qui en sort. Les câbles sont de dimension faible, insuffisante par rapport à la production d'électricité. Ils ne sont pas enterrés à une profondeur suffisante qui est au moins de 80 cm. Il y a des câbles qui affleurent à moins de 50 cm. Et en plus, ce ne sont pas des câbles blindés. Il y a, en plus de cela, il y a l'éolienne numéro 7 qui a été arrêtée pendant un certain temps. On n'a pas eu d'explication pourquoi, mais le parc éolien a arrêté ça. Ce qu'il faut bien souligner dans cette affaire, c'est que les animaux, un petit peu comme chez Alain Croulx-Bois, les animaux ne passaient pas à la salle de traite. Puis il y avait beaucoup de problèmes. Et le parc éolien, pour des travaux, non par rapport à cette affaire, a été arrêté pendant 4 jours. Et dans ces 4 jours-là, il y a eu une amélioration phénoménale du comportement des animaux et aussi un peu de la santé. Donc, ce témoignage est quand même aussi quelque chose de très, très fort. Il est à recouper avec quand même l'ensemble des victimes. C'est-à-dire que quand les paysans sont victimes, ils ne parlent pas de leurs problèmes. Ils les cachent, parce que c'est honteux d'avoir des problèmes. C'est honteux de ne pas être compétent. Et à chaque fois, alors je voudrais insister sur le fait que chaque fois qu'on va dans les tribunaux, en dehors de Dominique, quand on perd, c'est toujours la faute de l'éleveur, l'incompétence de l'éleveur qui est mise en cause. Et jamais on a pris en compte dans les tribunaux, les juges se reportent toujours vers des experts. Alors, je vais dire quelque chose qui peut fâcher, mais en fait, les experts officiels dans les tribunaux sur ces affaires-là sont des experts qui sont compromis, sont des anciens ingénieurs pour certains, ou responsables des firmes qui sont responsables des... Oui, voilà. Oui, merci. La conclusion, c'est que il ne faut pas rester isolé. Il y a eu une enquête du ministère de l'Agriculture. On doit avoir 2400 réponses. Il y en a au moins 1000 qui sont concernés. Et que nous, notre souhait, en tant que militants face à tous ces problèmes-là, c'est que toutes les structures qui sont concernées par les problèmes d'ondes électromagnétiques. On puisse se retrouver, faire un rapport de force pour justement arriver à, eh ben, comme vous l'avez décrit tout l'après-midi, à mener des actions, à mener des informations suffisantes pour faire changer les lois, acquérir davantage de victoires dans les tribunaux pour s'organiser une jurisprudence et faire changer la loi, faire changer la vie. Voilà.
Merci beaucoup. On a le temps pour prendre 2-3 questions. On a 5 minutes, si ça vous va. Le micro va circuler.
Elle existe encore, mais malheureusement, elle est un peu en léthargie, on pourrait dire. Les éleveurs qui avaient un peu les responsabilités sont beaucoup d'éleveurs qui étaient dans la grande difficulté et n'ont pas donné l'élan et le là. Il y a eu beaucoup de pression auprès des éleveurs et beaucoup d'éleveurs à un moment étaient un peu tétanisés, n'étaient plus dans le positionnement d'être offensifs. Je crois qu'il y a beaucoup d'endormissement de la part de quelques politiques qui ont essayé... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des avancées, mais l'Office français de l'OPES, alors qui s'appelle l'Office le choix scientifique et technologique, ils ont fait un peu un travail, mais il n'y a pas de suite, quoi. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que le problème, la problématique qu'il y a, et là, je regarde Christian et les amis de la Conf paysanne et les copains engagés à la Conf, en fait, la question qui nous taraude, qui est un aspect juridique, notre avocat se bagarre sur un thème qui consiste à dire il y a eu un avant, dans la ferme tout allait bien, il y a eu des travaux et à un moment qu'interviennent de la part peut-être des fois de l'élevage, de l'éleveur, il peut aussi y avoir des travaux en élevage qui posent problème parce qu'un électricien a pu faire aussi des choses et puis il y a un après. Est-ce qu'il y a eu un bouleversement dans l'environnement, comme le dossier de Franck Giguet en Savoie, où pour mettre les remontées mécaniques des stations de ski, ils ont changé les câbles et puis que, ben, ils ont foutu en l'air la zone et c'est Franck qui est emmerdé dans son élevage. Preuve à l'appui, il n'y a pas de problème dans son... Mais sur la question les éléments mis en avant par l'avocat, c'est de dire qu'il y a un trouble de voisinage. Et en faisant des travaux, ils perturbent l'élevage. Et un autre aspect que nous, on met en avant, c'est l'impossibilité pour les éleveurs à exercer dans un environnement sain. C'est scandaleux qu'un paysan se retrouve mis dans une position de ne plus exercer son métier alors qu'il a mis tous les atouts de côté.
Juste une question rapide. J'imagine qu'il y a plein de gens qui se posent la question parce que vous n'avez pas en fait évoqué spécialement la question des onduleurs ou des câbles dans des parcs photovoltaïques en soi, où il y a souvent maintenant des bêtes qui sont dedans. Et évidemment, ici, avec plein de collectifs qui se battent contre l'agrivoltaïsme, avec surtout présence d'animaux, est-ce que des recherches existent ?
Voilà. C'est ce que j'ai dit au début. En fait, il y a une étude qui est menée dans l'Orne sur une ferme laitière en partenariat avec le constructeur et l'INRA, qui est l'Institut de recherche agronomique. Donc en fait, c'est une étude qui a été démarrée l'année dernière, donc qui a intégré la problématique des courants parasites. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est que de toute façon, là où vous avez de l'électricité qui circule, il y a une problématique de fuite probablement qui peut arriver sur du câblage. Sur les onduleurs, on a plein de cas de pollution. La première cause de pollution dès qu'il y a une installation photovoltaïque, alors j'en ai pas au sol, mais sur les toitures, ça vient de l'onduleur. Tout le temps. Alors j'ai vu des éleveurs où ça fonctionnait très très bien, hein. Faut pas non plus alerter là-dessus. Mais et puis ce qui est assez problématique, c'est que finalement, je vous disais, les onduleurs à 35 mètres, ça pollue. Les onduleurs dans le bâtiment d'élevage, ça pollue. Et on se dit... En fait, à quelle distance ça pollue pas, quoi. Donc ça dépend aussi de la géologie. Ça dépend de là où on va implanter le parc photovoltaïque, si on parle du sol.
Ce qui paraît important malgré tout, qui me paraît important malgré tout, c'est avant toute installation, collectivement, faire des études géologiques du comportement du sol pour éviter toute source ou tout courant d'eau ou faille de roche. Alors, il y a des gens spécialisés qui sont capables de nous aider pour retrouver ça et de faire des études, des géobiologues. La Chambre d'agriculture de... Oui, voilà.
Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai appris beaucoup de choses. Je voulais vous demander, alors, cas concret, dans ma commune, moi, il y a une éleveuse là, qui se lance dans l'agrivoltaïsme, qui va entretenir un parc et puis qui a aussi fait un hangar solaire là, chez elle. C'est un crève-cœur parce qu'on l'avait aidé à planter des arbres, etc. Mais bon, je ne m'étale pas là-dessus. Si je devais lui transmettre un document ou je sais pas, ce serait quoi, je lui envoie un mail et j'ai envie de l'alerter sur ces questions-là parce que peut-être qu'elle y serait sensible. Est-ce que vous auriez quelque chose de facile à partager parce que elle n'a pas été à la conférence et...
Déjà, il y a plein d'informations, il y a plein de cas d'éleveurs qui ont été médiatisés. Donc si tu tapes courant parasite, un élevage, tu vas trouver tout un tas de témoignages. Sur le photovoltaïque, Marc a eu ses gros soucis avec les onduleurs, vient d'accepter de médiatiser. Donc maintenant, il est dans la presse suisse et le Dauphiné Libéré a fait un papier il y a 15 jours aussi avec lui. Donc en fait, lui, pour le coup, c'est le meilleur exemple que tu puisses lui amener. Mais en tout cas, tu as toutes les informations en ligne. Tu as des chambres d'agriculture qui, justement, c'est ce que tu voulais dire. Je t'ai coupé. Mais les chambres d'agriculture qui interviennent aussi en préventif dans les élevages, justement pour les aider à choisir le meilleur implantation pour les ouvrages électriques, et du coup qui font de la sensibilité sur le sous-sol.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que, par exemple, les implantations d'antennes, il ne faut pas hésiter à demander au maire d'exiger les études géologiques de l'endroit où une antenne ou une infrastructure sera placée. Lorsque les maires demandent ça, ils le font à leurs frais et demander le résultat de l'étude. On ne peut pas soupçonner que certains laboratoires trafiquent les choses, mais y compris sur les pylônes de THT, avant de les implanter au pied d'un lotissement ou d'une maison ou d'un bâtiment d'élevage. Mais en général, les études de sous-sol, ils sont obligés de les faire pour voir si on n'est pas en train de mettre le mal dans les nappes phréatiques, quoi.
Ouais, c'est brebis chèvre.
Eh ben, dans tous les cas, tu pourras lui passer cette conférence. Oui, on pourra aussi passer cette documentation volontiers. Eh ben, merci. Du coup, pour ce temps, bravo.
J'avais une question, pardon. Une dernière pour la route. Une question que je me pose, moi, voilà, il y a des centaines de milliers d'exploitations agricoles d'élevage en France, avec autant de bâtiments sur lesquels il y a maintenant beaucoup de panneaux. La France est quadrillée de lignes à haute, moyenne tension dans tous les sens, quoi. Pourquoi il y a que... Alors évidemment qu'on peut trouver dramatique qu'il y ait 470 animaux qui soient morts, mais la question c'est pourquoi il y en a aussi peu. Pourquoi on n'assiste pas à un véritable carnage, quoi.
Je suis très contente de vous poser la question. C'est vrai qu'on a tourné autour. Il y a plusieurs raisons. Un, Jean-Claude l'a évoqué, il y a la confidentialité. Ouais. Dans la Manche, on a délocalisé, RTE a délocalisé 3 fermes laitières. C'est de l'argent d'État. Hein. Voilà. 3 fermes laitières qui ont été délocalisées à cause de problèmes de haute tension. Donc la confidentialité laisse beaucoup de fermes sous les radars. Deuxième chose, on ne fait pas de statistiques. C'est vrai que quand on parle de pollution, on aime savoir, on aime la quantifier. Aux États-Unis, ils ont quantifié la pollution électrique. Ils savaient que 20 à 30% des élevages laitiers étaient victimes de problèmes de courant parasite. Nous, on a fait un sondage en 2024. Au mois d'août, au moment où les agriculteurs sont tous sur leur tracteur sur les moissons, 3 semaines sans publicité, sans message des chambres d'agriculture pour prévenir que le sondage était en ligne. Il y a eu un petit peu de pression d'ailleurs de la Confédération paysanne, de la coordination rurale pour dire c'est quoi ce bazar. Ils ont relancé le sondage, un peu médiatisé. En 3 semaines, 2400 réponses. En 3 semaines, 2400 réponses. Donc on peut imaginer que s'ils avaient laissé le sondage sur un mois et demi ou deux mois et pas l'été, en pleine saison agricole, on aurait peut-être eu un peu plus de retours. Donc quand on veut marginaliser un problème, on ne compte pas. On fait taire. Et puis il y a aussi... la problématique géobiologique, c'est que vous pouvez avoir des fermes le long d'une ligne, vous allez en avoir deux touchées et tout le reste qui ne sera pas touché. Pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'on appelle le phénomène d'induction que vous aurez sur le photovoltaïque. Si le photovoltaïque, il vous met deux câbles électriques côte à côte, là, qui cheminent parallèles, vous aurez des boucles d'induction. Si les prises de terre sont mal fichues sur vos installations photovoltaïques, c'est-à-dire qu'elles sont montées en boucle, ça veut dire que s'il y a des fuites, ça va tourner en boucle. Les animaux sont dans une boîte électrique. Donc, c'est aussi la configuration et le montage en fait, de ces ouvrages. Mais le long de la ligne haute tension, je reviens à cet exemple-là, vous avez 10 fermes et 2 touchées. Pourquoi ? Parce que vous en avez peut-être 8 qui sont perpendiculaires à la ligne. Et là, l'induction magnétique est coupée. Il n'y a pas d'effet. Et celle qui est parallèle, elle en prend plein les mirettes. Voilà. Donc, il y a des configurations de terrain, de la sécurité électrique et beaucoup d'omerta.